France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
Conflits armés, menaces nucléaires, les informations en provenance d'Ukraine, de Russie, des États-Unis, d'Iran, de Palestine, d'Israël sont toutes inquiétantes. Alors si l'on ajoute à cela la crise du climat et l'énergie, on comprend que plus de 60% d'entre nous disent se sentir psychologiquement vulnérables face à tout ce qui se passe dans le monde. Vulnérables et impuissants, avec une grande tentation de douter de tout, de remettre l'avenir en question et de ruminer les pensées négatives avec à la clé des troubles anxieux. Ce d'autant que ces informations inquiétantes, nous y sommes soumis toute la journée par les téléviseurs, les smartphones, les tablettes, les notifications, les alertes, un flux en continu lourd de conséquences. Un Français sur deux serait touché par une forme de fatigue informationnelle, une fatigue, on le sait, associée au stress, à l'anxiété, à la dépression et à l'addiction. Comment ne pas sombrer dans la morosité? Comment vivre heureux alors que les obstacles au bien-être semblent de plus en plus nombreux? Comment ne pas se laisser submerger par ces informations anxiogènes? Faut-il nous couper de l'actualité ou apprendre à s'en détacher? Quels conseils donner pour qu'elles n'affectent pas notre bien-être psychologique? Une spécialiste est là pour nous aider. Marine Colombel, bonjour.
Bonjour Marine.
Vous êtes médecin psychiatre, praticien hospitalier à l'établissement public de santé Barthélémy Durand dans l'Essonne, spécialisé dans la prise en charge psychothérapeutique du burn-out, du stress et du psychotrauma. Vous enseignez la méditation à la faculté Toulouse 3 et vous êtes l'auteur de Neuroplantes, stress, anxiété, dépression, les 7 plantes qui aident votre cerveau. C'est publié chez Marabout. On va parler de cette anxiété informationnelle dont nous sommes effectivement nombreux à souffrir. Mais juste est-ce qu'avant d'en parler, on peut rappeler quand même ce qu'est l'anxiété aiguë et chronique, de quoi s'agit-il?
Oui, bien sûr. Alors l'anxiété, c'est un sentiment de peur ou d'inquiétude qui va perdurer dans le temps. Et la particularité de l'anxiété, par exemple, par rapport à une phobie, c'est qu'il n'y a pas forcément de sujet de peur précis. C'est quelque chose, c'est un sentiment qui est plutôt global et qui va finalement recouvrir notre vision du monde sur une période assez longue pour nous faire souffrir et avoir des dysfonctionnements dans la vie quotidienne.
Alors, est-ce que l'information peut vraiment être source d'anxiété?
Bien sûr, parce que il y a la qualité, le contenu même de l'information, mais aussi cette façon d'y accéder. Ça veut dire que maintenant, bon, il y a la télé évidemment, mais il y a également beaucoup les réseaux sociaux qui envahissent de plus en plus notre quotidien, qui fait que cette actualité, souvent qui porte des émotions fortes, voire négatives, finalement vont envahir de plus en plus nos temps de vie jusqu'au moment où une anxiété va apparaître finalement en réponse à cet envahissement émotionnel par cette information qui ne trouve plus d'espace séparé entre notre vie privée et et la vie publique.
Il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres face à la même actualité, finalement, aux mêmes informations.
Oui, on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas la même sensibilité. C'est vrai que le fait de pouvoir avoir une certaine distance émotionnelle, ça veut dire être un peu dans sa bulle, dans son cocon. Certaines personnes le font très naturellement. Ils arrivent vraiment à s'ancrer dans le moment présent et dans leur action. C'est un facteur qui est très protecteur pour la santé mentale. Et on voit souvent dans les terrains des patients anxieux que j'accueille, des tendances à la rumination, des tendances finalement à écouter beaucoup plus qu'il ne faudrait ses pensées négatives et à tourner en boucle dans ces informations finalement qui les coupent de leur réalité du moment.
Quand on parle burn-out, on pense toujours l'épuisement lié au travail. On peut avoir ce type de burn-out, en fait, avec ce flux continu d'informations?
Alors, le mécanisme est proche. Alors, quand on dit burn-out, on est vraiment sur l'épuisement professionnel. C'est dans la définition du burn-out. Mais en tout cas, il y a un point commun entre cette anxiété due aux informations et au burn-out, c'est la disparition des espaces. Les patients qui viennent à cause d'un burn-out, souvent, ont un envahissement de leur vie de travail dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on a sans arrêt le smartphone, nos mails ne s'arrêtent jamais, le flux d'informations ne s'arrête jamais. Et c'est exactement le même mécanisme qui arrive actuellement avec les informations qu'on a au jour le jour. Ça veut dire qu'on a un envahissement de notre expérience réelle par des choses qui sont extérieures à nous et parfois très extérieures. Ça peut être des conflits à l'autre bout du monde qui ne nous concernent pas directement. Ça veut dire que notre cerveau ne sait plus faire le tri entre ce qui nous appartient à nous propres et ce qui appartient finalement à quelque chose de beaucoup plus large.
Alors c'est vrai que notamment les chaînes d'infos en continu ou effectivement les notifications permanentes sur nos smartphones fait qu'on écoute un peu en boucle ces infos. Alors c'est à à risque, parce que plus une information se répète et plus nos neurones y deviennent sensibles, sans compter, je l'ai lu en tout cas, qu'on retient mieux les informations négatives que les informations positives. C'est vrai, et pourquoi ?
C'est vrai, on commence maintenant à comprendre le mécanisme, et il faut vraiment revenir à l'anatomie. Pourquoi ? Parce que donc, la petite zone qui va servir à enregistrer les informations, qui s'appelle l'hippocampe, dans le cerveau, évidemment, est très proche de l'amygdale, l'amygdale du cerveau, évidemment, qui est une zone de gestion des émotions fortes. Donc, généralement, la peur, la colère, la tristesse va être activée par cette fameuse amygdale. Et le fait de l'activer avec des informations négatives qui nous fait ces émotions fortes, va encoder de préférence les informations négatives. On a tendance à plus se rappeler de quelque chose qui nous a choqué émotionnellement que d'une information neutre, voire même, hélas, d'une émotion positive, finalement, d'un souvenir qui est plus positif. Et on peut l'expliquer, ça, au niveau du développement
des humains. C'est ça qu'on appelle ce biais de négativité ?
Tout à fait. Donc, le biais, c'est en thérapie cognitive qu'on utilise ce terme. Il faut savoir que ce biais a une valeur à la base. Les émotions ont un rôle, c'est-à-dire que la peur, la colère servent à quelque chose, elles servent à préserver l'individu, elles sont vitales. Si on remonte très 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 loin l'histoire de l'homme, avant on était dans la nature, il fallait qu'on chasse, il valait mieux encoder une information de dangerosité, par exemple sur les animaux, que quelque chose de positif, parce que c'était la survie qui était due à ça. Mais on a gardé ce cerveau-là, en fait, de cette époque-là. On a moins de risques, en vrai, on risque pas notre vie tous les jours en sortant, mais notre cerveau a toujours cet encodage-là. Dès qu'une émotion négative arrive, il va plus facilement la mettre en mémoire.
Alors, on va essayer de trouver des solutions pour aller mieux. Bon, il n'est pas question de nier toutes les tensions qui existent dans le monde. On ne peut pas s'enfermer, on ne peut pas se couper complètement de l'extérieur. Mais on peut apprendre à vivre mieux. Il y a des pistes pour ça. On va déjà écouter Thierry qui a pris quelques décisions et qui témoigne dans le téléphone sonne sur France Inter. Écoutez-le.
J'ai dans mon entourage quelques personnes qui sont toujours anxieuses par l'information en continu. Et donc, moi, j'ai décidé au sein du foyer de me tenir informé de l'actu par l'écoute d'un journal au moins une fois par jour, plutôt radio, bien sûr, surtout pas de chaîne d'infos en continu, qui comporte beaucoup trop de temps passé par des chroniqueurs qui sont experts de rien, des spécialistes de l'émission de télé et surtout pas des sujets dont ils traitent. Et ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de voir au moins une fois par semaine une émission de décryptage de l'actu, émission de télé plutôt, et bien sûr terminer mon information par la lecture d'un hebdo papier, d'un hebdomadaire. Ces hebdomadaires comportent des analyses de l'actualité qui sont toujours très fines et posées.
Alors, limiter le temps d'exposition, multiplier les sources et privilégier la qualité à la quantité.
C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Je rajouterais aussi la temporalité. Ça veut dire que, comme le dit très bien la personne qui vient de témoigner, ce qui est difficile pour notre cerveau, c'est de recevoir en direct l'information. Parce qu'il manque un filtre, il manque un travail de l'information qui est pourtant extrêmement important pour l'encodage. Le fait de changer de forme de média, typiquement, on écoute une fois la radio, ou encore mieux, on prend un livre, une revue hebdomadaire et on va lire les informations une fois par semaine, nous permet d'avoir cette fameuse ce recul par rapport à l'actualité et de retravailler autrement l'information. Au lieu d'être dans une information 100% émotionnelle, on commence à arriver sur une émotion plus rationalisée, plus compréhensible, qui a moins d'absurdes et qui permet du coup d'être beaucoup plus facilement absorbable pour le cerveau, qui va beaucoup moins déclencher tout le système limbique, le système des émotions.
Vous dites déjà que consulter les infos une, deux fois par jour, ça suffit largement.
Tout à fait.
Il faut se limiter.
Il faut se limiter. Je sais que c'est pas facile parce qu'on est dans un monde, les notifications sonnent tout le temps. Oui. Donc là, c'est à nous de faire ce travail-là parce que avant, on était limité simplement par des questions organisationnelles. La société ne pouvait pas nous fournir plus d'informations, par exemple, qu'une fois par semaine ou au maximum une fois par jour. Ce monde-là a changé. On pourrait avoir le monde entier immédiatement tout le temps. Face à ce flux d'informations, c'est à nous finalement de devenir la frontière, de remettre ses limites et des limites qui dépendent d'une personne à une autre. C'est là où il faut s'écouter et se dire quel est mon niveau d'importance dans l'information, jusqu'où je peux aller. Évidemment, le but, c'est pas de se couper du monde, c'est de rester accroché au monde. Et ça, c'est pas facile. Pour certains de mes patients anxieux, ils auraient tendance, au contraire, à tout lâcher, à se couper complètement. Donc, ce qui est important, c'est de rester ancré dans ce monde, mais à sa façon et surtout en respectant son rythme naturel.
Face à ces informations anxiogènes, c'est bien d'échanger avec ses proches.
on risque de les angoisser. Avec quels proches on échange? Est-ce qu'il faut le faire?
Ah, je le conseille toujours à mes patients, ne pas rester. En tout cas, si une information a provoqué une émotion, a provoqué quelque chose en eux de l'ordre de la souffrance, oui, il faut en parler, pas forcément en débattre, mais il faut avoir un espace, en tout cas, d'expression pour pouvoir retravailler l'information. C'est d'autant plus important, par exemple, avec nos jeunes, avec les enfants, les adolescents, qui, eux aussi, vivent ce monde de façon très abrupte, de façon très intrusive bien dans sûr. Leur vie, et de pouvoir retravailler ça avec eux, avec évidemment la famille, avec les proches, mais aussi en faisant confiance à des gens, des journalistes dont c'est leur travail, qui doivent traiter l'information justement et remettre cette objectivité dans l'information de tous les jours.
Je disais en présentant que vous enseignez la méditation, en quoi cette pratique peut nous aider dans cette anxiété informationnelle?
Alors, la méditation, c'est un outil que j'utilise maintenant depuis une bonne dizaine d'années pour mes patients anxieux de façon générale. Il faut comprendre que ce qui nous fait souffrir, c'est pas forcément la nature de nos pensées. C'est plutôt le fait d'y adhérer, d'y être collé. Ça veut dire que si vous entendez par exemple une nouvelle négative, ce qui vous fera souffrir, c'est pas la nouvelle en soi, c'est votre niveau de croyance, d'investissement de cette pensée-là. Et on n'est pas obligé, finalement, d'investir toutes les pensées. Certaines pensées doivent être mises à distance. Pourquoi? Parce que sinon, elles sont trop envahissantes et elles vont sans arrêt projeter dans notre monde une négativité qui va finir par jouer sur notre santé mentale. Donc, la méditation va vraiment être un superbe outil pour apprendre à se recentrer sur le moment présent, sur le corps, et apprendre petit à petit à laisser à distance ces pensées. Ne pas les arrêter forcément, mais ne pas y adhérer non plus. Donc en psychologie, on appelle ça la diffusion. Et c'est un mécanisme qui est très utile pour apprendre justement à gérer ces angoisses.
La relaxation aussi, ça peut être utile par exemple?
La relaxation aussi. Alors la relaxation est très proche de la méditation. Il faut savoir que par exemple, la relaxation de Schultz, connaissait extrêmement bien la méditation indienne et donc il a introduit beaucoup de notions méditatives. La différence pour moi entre les deux, c'est que dans la méditation, nous n'avons pas le but de se relâcher. C'est ça la grande différence. La relaxation, on essaye d'être bien. La méditation, on essaye d'être soi. C'est pas la même chose. Et c'est important justement pour un anxieux de se dire, j'ai le droit à certains moments d'être anxieux, de traverser cette anxiété, de la vivre. Et ça, finalement, paradoxalement, c'est très apaisant pour les gens qui souffrent d'anxiété chronique.
Ce qui est compliqué dans ces informations qui nous menacent, éventuellement pour le futur, c'est qu'on se sent totalement impuissant.
Oui.
Comment on gère ce sentiment d'impuissance?
Alors l'impuissance, c'est terrible parce que c'est la position d'impuissance qui provoque et à la base de la dépression, finalement. C'est le fait de savoir qu'on subit quelque chose de difficile, de douloureux, une souffrance sur laquelle on n'a pas d'emprise, qui prend le pas sur notre vie. Dans ce cas-là, on ne peut pas forcément arrêter la souffrance en elle-même. Imaginez, vous traversez un deuil qui est très difficile, le deuil, il est là, la personne est partie. Mais le fait de ritualiser, de reprendre une forme de commande, de retravailler les pensées, de peut-être mettre des rituels, fait qu'on sort de l'impuissance et on remet nos propres limites qui fait que cette souffrance devient acceptable et peut être traversée de nouveau.
Et est-ce qu'on peut faire de cette impuissance éventuellement l'inverser, faire quelque chose de positif en agissant, même si c'est pas tout seul, on va pas changer le changement climatique, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose?
Bien sûr, c'était Nietzsche on a beaucoup parlé, c'est justement cette impuissance acquise, si on prend les termes du psychiatre Dr. Seligman. Quand on arrive à reprendre les commandes dessus, à reprendre finalement un espace en soi, c'est-à-dire qu'on laisse passer les pensées, on va redécouvrir quelque chose dans notre corps, dans notre intériorité qui nous nourrit, c'est une façon de sortir de cette impuissance justement. Le monde continue, évidemment les guerres seront toujours là, il y aura toujours des conflits, on n'arrêtera pas le cours des choses. Mais nous, notre position dedans, notre capacité à nous en extraire à certains moments pour aller retrouver nos ressources dépendent vraiment de nous. Et c'est quelque chose qui est accessible, évidemment, on le fait en méditation, on peut le faire avec d'autres procédés psychothérapeutiques, évidemment. Mais c'est essentiel pour finalement faire face à cette anxiété envahissante qui nous met en position d'impuissance.
Et il faut, vous le dites, éviter de s'isoler et au contraire, augmenter tous les actes positifs vis-à-vis des personnes qu'on aime.
Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, qui fait un petit peu benêt quand je dis à mes patients, je l'avoue, mais je leur dis, mais faites-vous des petits plaisirs du quotidien. Pourquoi ? Parce que le fait d'émailler sa journée de petits shoots de plaisir, de petits shoots de dopamine, de choses vraiment qui nous font plaisir, mais simples. Un café chaud, une conversation avec quelqu'un d'agréable, simplement se mettre à la fenêtre et prendre quelques rayons du soleil, ça fait énormément de bien. On va vraiment travailler tous les circuits neuronaux liés à la dopamine et à la sérotonine et réactiver du bien-être. Il faut savoir que les premières psychothérapies en thérapie cognitive qui ont été développées dans le cas justement de la dépression par Aaron Beck étaient basées sur ça, la mise en action et le fait d'imprégner notre journée petit à petit par des petites touches de couleur, des petites touches de bien-être qui, en fin de compte, vont réactiver la machine et nous faire sortir de l'anxiété et de la dépression.
Et on peut justement, en fin de journée, essayer de lister un peu ce qui a été bien dans sa journée, c'est utile ?
Ça peut être une très bonne idée parce que il faut savoir que notre cerveau ne fait pas de différence entre les pensées et la réalité. Le fait de repenser un souvenir agréable fait qu'il va revivre les émotions qui ont été agréables. Il va de nouveau encoder un nouveau souvenir qui, au lieu d'activer sans arrêt nos amygdales qui nous stressent, vont être connotés positivement et petit à petit retravailler ces fameux schémas cognitifs. Et effectivement, on va bien s'endormir après.
En fait, nos angoisses là, actuelles liées aux informations, c'est du futur, on ne sait pas ce que sera le futur. Il faut sans cesse revenir au présent.
C'est important parce que finalement, le présent est la seule réalité. Le passé, quel qu'il soit, est passé, on ne le refera jamais. Le futur n'existe pas. Ça fait bizarre, un anxieux de lui dire ça. Le futur n'existe pas. Vous ne pourrez jamais prévoir les milliers de possibilités du futur. Et c'est comme ça, et c'est très bien. La seule réalité sur laquelle vous avez un moyen d'agir, d'être dans l'action, c'est le présent. Tous les outils qui vont ramener notre attention dans le présent seront des outils efficaces contre l'anxiété.
Alors, si malgré tous ces conseils, on ne va pas bien, si on a des crises d'angoisse, on peut consulter, bien sûr, on va y venir. Mais avant, vous avez une solution qui est de se créer son kit de survie. C'est quoi ce kit de survie ?
Alors, c'est des petits outils faciles à utiliser. Pourquoi ? Parce que pour tous ceux qui ont déjà vécu une attaque de panique, une anxiété envahissante, on a l'impression que le cerveau déconnecte. Vraiment, on a l'impression d'être dans une sorte de brouillard, c'est très difficile de se concentrer. Donc moi, j'apprends toujours à mes patients des exercices extrêmement simples. Il ne faut pas réfléchir quand l'anxiété arrive et qui vont permettre de les recentrer. Typiquement,
il faut l'identifier déjà.
Il faut l'identifier. Bah, généralement, il l'identifie assez bien. Les anxieux savent...
Il faut repérer les premiers signes.
Ils repèrent les premiers signes, les tremblements typiquement, les suées, le rythme cardiaque qui commence à accélérer. Généralement, ça, ils savent le faire. La difficulté, c'est de justement réincarner le corps, de revenir au moment présent, au moment où ça arrive. Et donc, il y a des petits exercices simples. Simplement, par exemple, le travail sur la respiration. Je apprends à reprendre quelques respirations en pleine conscience pour se réancrer dans le corps, qui peut être un outil très, très efficace. Un deuxième outil que j'adore utiliser, qui est l'outil des cinq sens. Alors là, je leur dis, vous prenez la première chose que vous avez sous la main. Ça peut être un bijou, votre fermeture éclair, une mèche de cheveux, un mouchoir. Peu importe, vous prenez la première chose et vous allez le passer sensoriellement à travers les cinq sens. Qu'est-ce que je touche ? Quelle est l'odeur ? Quel est le bruit ? Si c'est quelque chose qui se mange, évidemment, quel est le goût dans la bouche ? C'est simple, mais c'est très efficace. On a un réancrage, ça focalise l'attention, ça évite à l'attention de repartir dans des mécanismes de pensée, de rumination, et ça recentre vraiment sur le moment présent, et surtout sur la corporalité, parce que notre corps, lui, ne vit que toujours qu'au présent. Donc automatiquement, si on revient dans le corps, on va se réancrer, et ça va permettre de passer cette vague émotionnelle.
Alors, si tout ça ne suffit toujours pas, on va consulter. La place des médicaments là, dans les antidépresseurs, quand est-ce qu'on les prescrit ?
Alors, déjà, on va éliminer les benzodiazépines, les anxiolytiques. Pourquoi ? Parce que ce sont des faux amis. C'est souvent eux qu'on prescrit aux gens anxieux, mais ce n'est pas du tout une bonne idée. Pourquoi ? Parce que ça fait des dépendances, parce que finalement, il y a des effets rebonds avec les anxiolytiques. Et en plus, c'est amnésiant. Ça veut dire que la personne, lorsqu'ils vont le prendre, vont oublier ce qui se passe. Il y a une sorte de dissociation qui va se faire. Donc, ce n'est jamais une bonne idée. Les antidépresseurs peuvent être une bonne idée. Paradoxalement, autant les antidépresseurs, par exemple pour les dépressions légères à modérées, sont très peu efficaces, autant ils peuvent l'être pour les gens qui souffrent vraiment d'anxiété chronique au long cours, évidemment, surtout les sérotonines, ceux qui agissent sur la sérotonine, les IRS, qui ont une bonne fonctionnalité. Autre outil que j'utilise moi évidemment beaucoup, c'est les plantes qui ont une bonne efficacité et qui ont l'avantage de ne pas créer de dépendance contrairement aux benzodiazépines et qui peuvent vraiment servir de soutien important pour les gens qui souffrent d'anxiété. Voilà,
vous en parlez effectivement, ces neuroplantes. Elles sont bien étudiées, ces neuroplantes, aujourd'hui?
Alors, on a des grands exemples, par exemple le safran, l'ashwagandha ou la rhodiole, où on a beaucoup de données cliniques qui reviennent avec des grosses études, ce qu'on appelle des méta-analyses. Ça veut dire qu'on commence à arriver sur des groupes de patients qui sont quand même assez importants, qui montrent que certaines plantes ont vraiment une vraie efficacité au long cours sur l'anxiété. Petit exemple, par exemple, le safran, qu'on peut utiliser également dans la dépression légère à modérée, qui va vraiment agir sur le fond de l'anxiété. Donc l'efficacité ne sera pas immédiate. On attend plutôt une semaine à deux semaines de prise pour avoir la pleine efficacité, parce que c'est un mécanisme proche des antidépresseurs qui va agir directement au niveau du cerveau, au niveau des neurones et de la recapture de la sérotonine, et qui va faire vraiment un fond contre l'anxiété. De façon un peu plus ponctuelle, par exemple, on a aussi l'ashwagandha ou la rhodiole, qui sont des plantes que l'on appelle adaptogènes.
C'est-à-dire ?
Adaptogènes, parce qu'elles nous permettent de nous adapter à la vie de tous les jours, aux changements environnementaux. Ces deux plantes vont agir sur l'axe cortico-surrénalien, ça veut dire l'axe du stress qui va du cerveau, de l'hypothalamus jusqu'au niveau des surrénales. Et leur avantage, c'est qu'ils vont réguler la sécrétion de cortisol. Ça veut dire qu'ils vont permettre de ne pas avoir trop de cortisol, parce que ça, c'est le stress chronique, mais pas non plus d'avoir un effondrement du cortisol, parce que le cortisol, on en a besoin tous les jours. C'est l'hormone qui nous permet de vivre normalement.
Mais ça veut dire que c'est des plantes qu'on peut utiliser de manière préventive?
Tout à fait. Préventif et actif aussi lorsqu'on a de l'anxiété, dans les deux cas. Et en tout cas, à chaque fois, on est sur des prises d'au moins un mois, deux mois, voire plus, en accord avec son médecin, parce que ça va permettre du coup de travailler vraiment le fond de l'anxiété, en plus évidemment de la psychothérapie et des conseils d'hygiène de la santé.
On continue dans quelques instants. Pour l'instant, on parle recherche et on continue avec notre chronique science.
Carnet de santé.
Peut-on combattre le cancer grâce aux exosomes? Les exosomes, ce sont de petites vésicules, de minuscules petites billes de 30 à 150 nanomètres de diamètre. Ces exosomes, toutes nos cellules en fabriquent. Ils sont produits à l'intérieur et sont ensuite sécrétés à l'extérieur et ils remplissent tout un tas de fonctions. Ils jouent le rôle de messagers, ils transportent du matériel biologique pour apporter cela ailleurs ou pour le jeter hors de la cellule. Ils interviennent aussi dans la réparation des tissus, dans la coagulation, ils alertent le système immunitaire qu'une cellule est infectée. Bref, on les connaît depuis une trentaine d'années maintenant et ils sont au cœur de nombreuses recherches. Parce que si les exosomes jouent un rôle aussi essentiel dans un organisme en bonne santé, ces vésicules sont aussi impliquées dans de nombreuses maladies. Sandrine Sylvente-Poirot est directrice de recherche CNRS au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse.
C'est l'envers de tous les bienfaits des exosomes. Donc, elles interviennent dans les pathologies cardiovasculaires, dans les maladies neurodégénératives, infectieuses, etc. Pour donner un exemple, le virus de l'hépatite se sert des exosomes pour se transmettre d'une cellule à une autre. Dans les cancers, eh bien, les exosomes ont un rôle délétère. Ils participent en particulier à l'évasion immunitaire. Donc, c'est ce qui nous intéresse maintenant, puisqu'on sait qu'il est important maintenant dans le cancer de stimuler l'immunité. Et que justement les cellules utilisent tous les moyens possibles pour pouvoir inhiber le système immunitaire. Et donc les exosomes participent à ce qu'on appelle l'évasion immunitaire. Et donc au lieu d'alerter les défenses de l'organisme, ils vont contribuer à freiner ou à détourner la réponse immunitaire en empêchant ainsi les cellules immunitaires de reconnaître et de détruire efficacement les cellules cancéreuses.
Dans le cancer, les exosomes deviennent donc des outils au service de la tumeur. Ils favorisent la prolifération tumorale, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, l'invasion, les métastases, la résistance au traitement et surtout, ils aident la tumeur à se cacher du système immunitaire. Évidemment et malheureusement, il n'est pas possible d'empêcher les cellules tumorales de fabriquer ces exosomes, car toutes les cellules en produisent. Bloquer leur synthèse dans tout l'organisme entraînerait donc des effets secondaires majeurs. Alors, il faut trouver un moyen de changer ces exosomes tumoraux sans que la cellule ne cesse d'en fabriquer. Et c'est ce qu'a découvert cette nouvelle étude parue dans le Journal of Extracellular Vesicles, une molécule nommée la dendrogine A, la DDA pour les intimes, est capable de changer le message porté par ces petites vésicules.
La DDA, eh bien, reprogramme les exosomes tumoraux, c'est-à-dire qu'elle augmente leur production, mais elle modifie aussi leur contenu. Et ces exosomes deviennent enrichis en un lipide et son enrichissement dans les exosomes permet à ces derniers d'être capturés très rapidement et très efficacement par des cellules immunes qu'on appelle les cellules dendritiques. Et c'est elles qui vont aller activer les cellules tueuses qui sont capables donc de reconnaître et de détruire les cellules tumorales. Nous avons donc utilisé ces exosomes tumoraux donc produits par la dendrogénine A ou la DDA qu'on a injecté à des modèles murins de mélanome ou de cancer du sein. Qu'après deux injections, nous observons une inhibition très significative de la croissance tumorale, voire leur disparition. Et cet effet s'accompagne d'une forte infiltration des tumeurs par les cellules dendritiques et les lymphocytes, ce qui nous permet de dire qu'on arrive en fait à reprogrammer ces exosomes pour qu'ils puissent en fait lutter efficacement contre les tumeurs et activer le système immunitaire contre la tumeur.
C'est donc une réaction en chaîne. La DDA change la nature des exosomes, ils perdent leur effet favorable à la tumeur et deviennent au contraire capables d'activer le système immunitaire. Le cancer cesse de progresser et surtout, il redevient visible pour nos défenses. Dans cette étude, et c'est finalement le résultat le plus important, la survie des souris a triplé lorsqu'on combine ces exosomes reprogrammés avec une immunothérapie. Et l'enjeu est majeur, car si les immunothérapies ont révolutionné la cancérologie, elles ne fonctionnent pas chez tout le monde. 60 à 80% des patients ne répondent pas suffisamment à ces traitements. L'idée proposée ici est finalement de renforcer l'efficacité des immunothérapies actuelles et d'augmenter les chances qu'elles fonctionnent. La prochaine étape sera de reproduire cette expérience pour d'autres cancers que le mélanome et le cancer du sein, toujours dans des modèles animaux. Et puis, et c'est toujours le plus difficile, voir si cette reprogrammation des exosomes peut fonctionner chez l'humain et donc transformer les messagers du cancer en allié du système immunitaire.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques d'Alexandra Delbos sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Encore une question sur ces plantes dont vous avez parlé. Est-ce qu'elles interviennent sur notre microbiote ?
Alors ça, c'est des recherches qui sont quand même assez récentes, mais qui commencent à émerger quand même de façon assez large. C'est qu'on sait qu'il y a un axe entre le cerveau et les intestins, donc l'axe intestin-cerveau, hein, tout simplement, qui va énormément réguler ce fameux axe du stress et de l'anxiété. On sait que beaucoup d'anxiétés sont dues à des modifications de notre microbiote, ça veut dire de la variété, de la qualité des bactéries qu'on a au niveau des intestins. Et ça, on a des axes maintenant de travail dessus. Premier grand axe, évidemment, l'alimentation. Ça, on le répétera jamais. Plus on a une alimentation de type méditerranéen, plus on sait qu'on va avoir un microbiote varié qui va éviter l'apparition de troubles anxio-dépressifs. Maintenant, il y a beaucoup d'études qui le disent, notamment grâce à l'apport en oméga-3, par exemple, en vitamine D, en zinc, qui sont des micronutriments qui sont très utiles dans le cas de l'anxiété. On peut penser aussi à certaines plantes qui vont vraiment améliorer le microbiote. Une des plus connues, c'est le curcuma. Donc, curcuma qu'on connaît, hein, c'est la plante du curry, oui. Mais qu'on peut utiliser de façon activée. Donc, vraiment, c'est du curcuma qui est spécifiquement produit pour la santé. Et dans ce cas-là, on sait que le fait de prendre du curcuma va vraiment améliorer à la fois la qualité et la quantité du microbiote, avec un microbiote qui va produire plus de butyrate, qui va être très bon pour la santé mentale.
Merci beaucoup. Pour en savoir plus, évidemment, votre livre très intéressant, Neuroplantes, stress, anxiété, dépression, les 7 plantes qui aident votre cerveau, c'est chez Marabout. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Swat Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde.